Pétrole, anatomie d'une malédiction.
Alors que la guerre fait rage en Iran, le monde assiste une fois de plus à la puissance du pétrole. Le blocage du détroit d'Ormuz fait vaciller les marchés, ravive le spectre d'une crise énergétique globale et étale nos dépendances. L'or noir n'est pas qu'une matière première, c'est un levier de domination, un moteur de guerre et un lourd fardeau pour la planète.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Ozano, l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole.
Épisode 5. 2003, la guerre des pétrodollars.
Si le pétrole n'était plus libellé en dollars, nous ne pourrions plus vivre au-dessus de nos moyens. David M. Walker, contrôleur général des États-Unis en 2006. Mathieu Ozano, cette citation d'une très grande sincérité, est-ce qu'on peut l'expliquer pour nos auditeurs ?
Ouais, c'est une très bonne citation que je ne connaissais pas. En fait, il y a un lien. Le pétrole est libellé en dollars. On l'échange en dollars. Le fait que ça soit la principale matière première, la plus décisive, la plus stratégique, et qu'elle soit libellée en dollars, donne un avantage énorme aux pays qui émettent le dollar.
Oui.
Tant que le pétrole est abondant, tu peux adosser à la monnaie que tu contrôles, qui est libellée en dollars, beaucoup de dettes. Et donc, il y a un lien, en fait, entre la dégradation de la valeur du dollar et la difficulté qu'il peut y avoir à accéder au pétrole. Mmh. Si tu veux garder la domination américaine, tu as deux pattes, tu as le pétrole et le dollar.
Oui, et comme c'est libellé en dollars, bah, tous les pays du monde ont plein de dollars dans leur caisse, en réserve de change, et n'ont pas intérêt à ce que le dollar s'effondre, parce qu'ils en ont plein chez eux, et donc ça veut dire que les États-Unis peuvent avoir du déficit en permanence. Normalement, en cas de déficit, bah, parce que vous avez émis plein de dollars, la valeur va s'effondrer, et là, elle tient, parce qu'aucun n'a intérêt à ce que le dollar s'effondre.
Ouais, alors il ne pourrait pas s'effondrer si il n'y avait que le pétrole qui n'était plus libellé en dollars, parce qu'en fait, on échange pratiquement tout en dollars.
Oui.
Par contre, en fait, pour moi, cette citation, je lui donne un sens qui est peut-être encore plus large. C'est quoi la croissance économique ? La croissance économique, c'est plus d'activité, plus de transformation. En fait, c'est plus d'énergie. Plus vous déplacez de choses, plus vous réchauffez, plus vous construisez, plus vous détruisez. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'économie mondiale, un flux d'énergie est en jeu. Or, quand vous regardez sur un demi-siècle la croissance économique mondiale d'un côté et que vous mettez en face la croissance de la production d'énergie, vous avez une relation proportionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, dollar ou joule, c'est deux facettes finalement d'un seul et même phénomène. Donc, exercer une puissance mondiale, ça suppose d'avoir le contrôle sur la principale monnaie et sur la principale source d'énergie.
Les pétrodollars, c'est ça en fait, le pétrole libellé en dollars, ça génère des pétrodollars dont ont beaucoup profité les États-Unis dans les années 70-80.
Oui, il y a plus d'argent. Alors, 73, c'est un moment qui est très critique pour les classes populaires aux États-Unis et les automobilistes qui payent leur plein. Et néanmoins, il y a beaucoup plus d'argent sous forme de pétrodollars qui revient à Wall Street que d'argent qui sort de la poche des automobilistes et que perdent les ouvriers qui vont perdre leur travail après 73.
Oui, c'est la bascule de l'économie américaine qui va se financiariser encore plus, qui va attirer les pétrodollars, notamment des pays du Golfe. Mais s'il le dit en 2006, c'est parce qu'en 2003, lors de la deuxième guerre du Golfe, il a été dit, alors je me réfère à vous, qui avez travaillé sur le sujet en particulier, qu'en 2003, c'est aussi Saddam Hussein qui menace de libeller son pétrole, peut-être en euros ou en d'autres monnaies, qui a suscité la colère de Washington, parce que si le pétrole irakien n'est plus libellé en dollars, bah on commence à entrer dans la citation que je donnais. Si le pétrole n'était plus libellé en dollars, nous ne pourrions plus vivre au-dessus de nos moyens. Est-ce que pour vous, je suis un peu sceptique ?
Ouais,
est-ce que c'est une des causes de l'intervention en 2003 ?
Je pense que c'est un prétexte, parce que les volumes de pétrole négociés par l'Irak, c'est tout petit dans les volumes échangés de pétrole.
Alors c'est quoi la cause en 2003 ? La cause officielle, c'est arme de destruction massive, on sait qu'elle est fallacieuse. C'est donc pas le pétrole libellé en euros. Alors c'est quoi la cause ?
C'est le contrôle de la plus belle source d'énergie dans le monde.
Encore.
Alan Greenspan l'a dit. Donc Alan Greenspan, c'était le patron de
la Fed.
De la Fed, c'était un peu la pitié de Wall Street. Dans ses mémoires, il écrit « Je ne comprends pas pourquoi on prend autant de précautions pour tourner autour du pot. » Tout le monde le sait, l'invasion de 2003, ça a eu lieu à cause du pétrole, donc sous-entendu pour asseoir la domination américaine sur le golfe Persique. Ça a été dit par Alan Greenspan, ça a été dit également par le chef d'état-major dans la région, juste après qu'il a pris sa retraite, un type qui s'appelle le général Abizaïd, qui a dit, évidemment que c'était à cause du pétrole, on ne peut pas vraiment le nier. Trump l'a dit. Trump, il a dit, au moment où les troupes américaines ont été retirées après la guerre civile, au moment où le président Obama retire les troupes, Trump dit, vous êtes tous des imbéciles, moi, si ça avait été que pour moi, j'aurais pris le contrôle du pétrole. Voilà. À cette époque-là, cette déclaration est passée complètement inaperçue. Mais encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, après la tragédie, la farce.
Oui.
C'est-à-dire que Trump, quelque part, il fait ce qu'il était impossible à dire. Bush, en 2003, tout y est passé. L'Irak était un soutien de Al-Qaïda, qui était un mouvement terroriste saoudien. Et Dieu sait que les Saoudiens et les Irakiens, c'est compliqué comme histoire. C'était ensuite les armes de destruction massive. L'administration Bush, qui est de bout en bout, il ne faut pas l'oublier, une administration de pétroliers. Bush était un pétrolier. Condoleezza Rice était une haute dirigeante pétrolière.
Dick Cheney. Halliburton.
Halliburton, éminemment.
C'est quoi Halliburton, on peut en dire un mot?
Alors Halliburton, c'est...
La firme qu'il a dirigée.
La production américaine de pétrole conventionnel a décliné, du reste continue à décliner aujourd'hui, depuis 1970.
Ouais.
Face à ça, vous faites appel à des compagnies de services pétroliers, donc des gens qui vous vendent des pompes, des équipements, de l'intelligence, pour mettre un maximum de paille dans le verre et faire que vous fassiez durer un maximum la phase de déclin de votre champ pétrolier. Bon, le roi de ce business-là, c'est Halliburton. Dick Cheney est patron du Pentagone au moment de la guerre du Golfe, en 91. Puis, il prend la tête d'Halliburton, qui est la première compagnie de services pétroliers mondiale. À ce moment-là, donc avant qu'il devienne le vice-président de Bush Jr., il a cette déclaration, il évoque les nouvelles formes d'énergie. Et il dit oui, effectivement, il y a d'autres sources d'énergie, il y a d'autres sources de pétrole non conventionnel. Mais enfin, ne nous leurrons pas, the ultimate prize, le trésor ultime, ça restera le golfe Persique. Et il dit ça un an avant qu'il rejoigne l'administration Bush, dans laquelle on sait aujourd'hui, dès avant le 11 septembre, que les premières initiatives de cette administration Bush, c'est comment est-ce qu'on retourne en Irak.
C'est vertigineux parce que...
C'est vertigineux, absolument. C'est cauchemardesque.
Ouais, oui, en effet. Alors, Halliburton va participer largement à la reconstruction de l'Irak. Concrètement, ça veut dire quoi? Prendre le contrôle du pétrole d'un pays après un conflit?
Alors, ça n'a pas marché.
Ouais.
Il faut dire que c'était le projet... juste avant l'invasion, la presse commence à gloser sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, etc. Time, le grand quotidien britannique, dit les pétroliers occidentaux, en quelque sorte, salivent d'impatience en attendant l'invasion de l'Irak. C'est un gâteau dont Dick Cheney prépare le partage avant le 11 septembre, avant 2001. Il crée une task force du pétrole, c'est une des premières initiatives qu'il prend dès son arrivée au pouvoir, où il réunit tous les grands capitaines d'industrie pétrolière américaine, et il y aura des ONG qui vont demander à ce que soit publié ce qui s'est échangé à ce moment-là. Il y a des cartes du découpage de l'Irak, etc. J'accélère en 2008, au moment où Bush, la fin du second mandat de Bush, on est en plein dans une guerre civile cauchemardesque qui a été déclenchée en fait après l'invasion de l'Irak. En 2008, le Guardian, donc le grand quotidien britannique, sort un plan prévu par l'administration Bush au début qui consistait à implanter 80 bases militaires permanentes en Irak. En gros, en faire effectivement un dominium.
Mais des bases militaires dans le but de contrôler les champs pétrolifères? Ou au-delà pour contrôler...
Dans quel pays et dans quel but vous allez prendre l'initiative de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour installer 80 bases militaires permanentes? Bon, l'Irak, c'est la clé du Golfe Persique. C'est l'une des plus belles sources et c'est la capacité à mettre la main éventuellement sur l'industrie pétrolière iranienne qui est juste de l'autre côté de la frontière.
C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, on voit, il y a 100 ans déjà, un épisode précédent, vous nous racontiez l'importance du pétrole de Mésopotamie. On est toujours dans cette soif de pétrole qui est là, ce lac pétrolier.
Le destin de la nation iranienne et irakienne est tragiquement lié, vous parliez au début...
De malédiction,
D'une malédiction. Dans les années 1920, la nation irakienne a été créée sans que les Iraniens soient consultés. C'est une création de bout en bout de l'Empire britannique, dans laquelle les Américains puis les Français disent « Attendez, attendez, nous on veut une part du gâteau ». Ce sont des nations entières qui sont gâtées, qui ont été gâtées à la lettre, par le,
oui, gâté et gâté, je vois bien.
Par, la, par l'excrément, ouais, l'excrément du diable. Ouais, mais nous, on a les nôtres. Hein. Enfin, je veux dire, nous, Français, on a une petite histoire crapoteuse avec nos anciennes colonies. Je parlais de la guerre Iran-Irak. Tout le monde a oublié la guerre au Congo-Brazzaville dans les années 90, alors qu'il fait des dizaines de milliers de morts. C'est une guerre civile épouvantable. Je ne sais pas s'il y a des guerres civiles qui sont autre chose qu'épouvantable, mais vous avez derrière, quand même, en arrière-plan, un jeu qui se joue entre les baladuriens et les chiraquiens, pour contrôler les rétrocommissions qui vont pouvoir être crachées ensuite par le vainqueur de cette guerre civile. Le Gabon, le Congo-Brazzaville, la guerre du Biafra. Oui. La guerre du Biafra, c'est...
On oublie la dimension pétrolière, c'est vrai.
Pour Focard et pour De Gaulle, il y a l'idée d'aller se tailler un bout d'empire pétrolier dans une ancienne colonie britannique. En fait, si vous voulez effectuer une puissance, et ça on le sait depuis Stalingrad, au moins, il vous faut des ressources adéquates en énergie, no matter what. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la première nation qui saura fonctionner sans cette espèce de post-impérialisme cauchemardesque autour du pétrole, en réussissant la transition bas carbone, non seulement elle marquera l'histoire à jamais parce qu'elle montrera que la tragédie climatique, c'est pas inexorable, mais en plus, elle sortira d'un jeu qui nous entraîne par le fond.
Quand on s'est parlé des dates avant d'enregistrer cette conversation, on m'a dit 2003, 2008 c'est plus important. Ouais. C'est parce qu'il y a le papier du Guardian, c'est ça 2008 pour vous?
Non.
Ou il y a autre chose?
Non. Je disais, hein, moi j'ai une lecture d'abord physique et d'écologiste en fait hein, sur ces enjeux. Ce qui m'intéresse c'est moins les dollars que les joules. Bon, j'ai parlé dans un épisode précédent de 1970 qui est une date fatidique, la première limite locale à la croissance. C'est le déclin de la production américaine de pétrole, qui est la première production mondiale, inexorable, écologique, naturelle.
Et 2008,
2008 c'est non pas la première limite locale, c'est la première limite globale. En 2008 est franchi un point fatidique, qui est le pic mondial de la production de pétrole.
Le pic oil.
Exactement, le pétrole conventionnel.
Ouais.
Ensuite, on vu leur essor, les pétroles non conventionnels, à commencer par le pétrole de schiste. Le pétrole conventionnel, c'est quoi? C'est le pétrole liquide classique. Mmh. C'est le pétrole qu'on va chercher dans un certain type de roches qu'on appelle les roches réservoirs. Et c'est ça l'or noir. C'est-à-dire que ce pétrole-là, il est profus, il donne des taux de profit incomparables, inégalés, dans aucune activité humaine. Et c'est la plus belle source d'énergie en qualité et en quantité qu'on ait jamais mise au jour. Le monde, l'économie mondiale, faute de réserves suffisantes, passe par un maximum en termes de production de pétrole conventionnel en 2008. Et je pense qu'il y a un lien très fort avec la crise de 2008. Pourquoi? Vous parlez du lien avec le dollar tout à l'heure. En fait, l'économie américaine de 1970 à 2008 est de plus en plus déficitaire, a commencé par un déficit parce qu'elle devient importatrice de plus en plus massivement de pétrole. Mmh. Donc elle sort des dollars, elle est obligée de recréer des dollars pour qu'ils sortent de l'économie américaine et qu'ils aillent en Arabie Saoudite, etc. Bon. Le fait que l'invasion de l'Irak intervienne en 2003, un moment où, pour les pétroliers, ce déclin du pétrole et du gaz américain est absolument inexorable, est tout à fait significatif pour moi. En particulier pour le stratège numéro 1, Dick Cheney, vice-président de Bush. Voilà. Donc vous voyez le dollar s'affaiblir, et qu'est-ce qui se passe entre 2003 et 2008 ? Vous avez une augmentation sans précédent des cours du baril, sans précédent. Au point que, en 2008, au plus fort de la crise des subprimes, le prix du baril va atteindre son record historique absolu, 147 dollars. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le baril devient de plus en plus cher pendant ces années-là? Côté demande, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y a l'arrivée de la demande chinoise, massive, mais la pente de la demande, elle augmente de manière régulière, comme elle a augmenté au cours des décennies précédentes. Par contre, il est de plus en plus difficile d'aller chercher des nouveaux barils, des ressources intactes, pour remplacer le déclin de la production existante. La mer du Nord entre en déclin, qui avait été développée après le choc de 73. La mer du Nord entre en déclin. L'Afrique entre en déclin. Elle passe par un pic absolu en 2007. L'Arabie Saoudite connaît un gros trou d'air, et d'ailleurs doit lever des centaines de milliards d'investissements pour relancer. Et en fait, qu'est-ce qui perce la bulle des subprimes? En subprime, il faut se rappeler, hein, voilà, c'est une bulle d'endettement.
Oui.
Qu'est-ce qui perce la bulle des subprimes? C'est l'augmentation des taux d'intérêt décidés par Alan Greenspan, par la Fed, pour contrer l'inflation. Et quel est le facteur 1 de l'inflation, l'augmentation des cours du baril. Mmh. Donc pour moi, il n'y a pas de solution de continuité. Vous avez une limite locale qui est franchie en 70, une limite globale qui est franchie en 2008. Après 2008, vous avez le quantitative easing qui est une espèce de création baroque des banquiers centraux pour faire que l'économie mondiale ne s'effondre pas et permettre incidemment l'essor massif de la première source de pétrole non conventionnelle aux États-Unis, qui est le pétrole de schiste.
Et tout ça nous va nous conduire à la période la plus récente. Est-ce qu'on est arrivé au bout d'une histoire ? Est-ce que l'heure de l'après-pétrole est arrivée ? Ou au contraire, on voit des anciennes puissances s'accrocher à l'or noir qui pourtant est en train de disparaître ? Ça sera l'objet de notre dernier épisode. Pétrole, anatomie d'une malédiction est un podcast original de France Inter.